Je vous invite de prendre vos Bibles et de revenir à Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Il y a quelques semaines, nous avons abordé un sujet qui touche tous, sans aucune exception, chrétien, pas chrétien. Et ils sont éprouvés. Ils reçoivent des difficultés dans leur vie. Et nous avons noté la dernière fois dans notre verset, rien que verset 2, nous avons appris quand même 5 choses au moins en verset 2. Si nous n'avions que ces 17 mots, j'ai mis le premier verset, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si un ange du ciel vient dans votre chambre ou chez les ceux qui recevaient cette lettre de Jacques et disait ces 17 mots, que vous le voyez, rien que cela, il y a certainement quand même autre chose à comprendre. Il va nous faire savoir ça. Mais si vous n'aviez que ça, on saura déjà pas mal de choses. Nous saurons par exemple que les épreuves sont un sujet de joie. Attends Robert, il dit... Regardez comme un sujet de joie. Il ne dit pas que les épreuves sont un sujet de joie. Oui? Pourquoi dit-il regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés? Parce qu'ils ne sont pas un sujet de joie? Parce qu'il faut faire semblance, parce qu'il faut prétendre qu'ils sont un sujet de joie, mais ils ne le sont vraiment pas. Non. Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui pouvaient vous arriver, parce que les diverses épreuves qui pouvaient vous arriver sont un sujet de joie. Ils sont un sujet de joie. Et il va expliquer pourquoi. Mais ça, c'était une chose qu'il fallait absolument saisir. Les épreuves qui nous arrivent sont un sujet de joie. Point. Et puis, nous avons aussi connu par le texte que ces épreuves sont imprévisibles, ils sont inévitables, ils sont diverses. Le vocabulaire dans ceci nous montre les 3 choses que nous avons examinées la dernière fois. On ne sait pas quand ils vont arriver, mais quand ils vous arrivent, et l'idée ici, ou quand vous soyez tombé dedans, ça c'est le mot actuellement, qui est traduit, vous pouvez être exposé. Quand vous tombez dans une épreuve qui implique le fait que vous ne savez pas que vous allez tomber, vous ne mettez pas devant un trou et puis tombe dedans. Vous pouvez sauter peut-être, mais vous tombez dedans quelque chose que nous n'avons pas prévu avant. Donc, les épreuves qui viennent sont imprévisibles. Nous avons le mot divers, pas diversité, question de quantité, bien que ça soit le cas, mais question de variété. Toutes différentes espèces d'épreuves qui arrivent sont devant nous, tout le temps. Et ils sont diverses. Et nous devons, excusez-moi la numération, cinquièmement, nous devons impérativement réjouir. Et nous avons vu ces choses sur 2 entêtements. Il y a une compréhension biblique à faire avant que vous pouvez avoir une attitude propice et salutaire. C'est intéressant que le dictionnaire disait comme salutaire, utile pour la conservation de la santé. Salutaire, utile pour la conservation de la santé. Parlant de notre vie spirituelle, Dieu veut que nous comprenions que chaque épreuve est utile. Face à votre réaction, ça peut rendre inutile l'épreuve, bien qu'il n'y a pas de neutralité dans les épreuves. On est amélioré ou empiré. Mais Dieu veut que ça soit quelque chose d'utile, une compréhension biblique, une attitude propice, ce que nous avions vu. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous soyons justes, passifs, que nous acceptions, que nous voyons Dieu comme quand vous allez à la piscine, il y a quelqu'un qui est embauché, qu'un sauveteur qui est sur une grande échelle, qui regarde, et si jamais il y a quelqu'un qui a une difficulté, il peut sauter, plonger dedans et aller vers le côté de la personne qui est en trouble, et puis le sauver, le faire sortir de la piscine sans qu'il noie. Et puis, Dieu est un grand sauveteur, tout puissant. Il n'a jamais fait noyer un seul plongeur. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Dieu n'est pas comme un sauveteur à la piscine qui peut tout faire. Il est omniscient, il est omnisagesse, il est omniconnaissant. Il ne va jamais perdre qui que ce soit. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut que nous comprenions par le fait. Sinon, ce ne serait pas un sujet de joie. Sinon, notre manière d'approcher les épreuves ne serait pas comme un sujet de joie, mais à tout prix éviter les épreuves, à tout prix s'échapper des épreuves, à tout prix repousser des épreuves, à tout prix mépriser des épreuves, mais au cas où que vous êtes dans la piscine de la vie, vous avez des difficultés, le grand sauveteur va venir plonger dedans et vous faire échapper le problème. On peut être content que le sauveteur est là, mais on ne peut pas regarder comme un sujet de joie avec une mentalité qui accepte comme bien ce qui arrive. C'est ce qui est absolument essentiel pour que nous puissions donc avoir une attitude, c'est que nous comprenions. C'est pour cela que nous allons passer un peu de temps en cherchant ce que Jacques veut que nous comprenions. En gros, nous pourrons dire qu'il y a quelque chose à savoir et il y a quelque chose à faire. Ça, c'est dans même notre texte, dans le troisième verset. Mais ça peut résumer, en gros, assez large, je le vois, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans le livre de Jacques. Mais ça peut résumer en gros. Il y a quelque chose à savoir. Et si vous savez mal, vous risquez de faire mal. Plus que vous savez du bien, plus que vous avez la capacité d'agir bien comme il faut. Quelque chose à savoir. Deux points. Que Dieu est l'auteur de nos épreuves. Je cherchais longtemps avant de tomber sur le mot auteur, parce que je ne voulais pas simplement dire que Dieu permet. Les épreuves de Dieu sont beaucoup plus qu'une permission de Dieu. Les épreuves de Dieu sont calculées par Dieu, déterminées par Dieu, pourvues, données par Dieu. Et deuxièmement, Dieu vise notre foi dans chaque épreuve. Regardez cela dans notre texte. Dans Jacques chapitre 1, verset 3, verset 2 disait, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, parce que c'est un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant. Il y a quelque chose à savoir. En fin de compte, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, Dieu vise notre foi, l'épreuve de votre foi. Arrête là. L'épreuve de votre foi. Chaque épreuve, c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Chaque épreuve, c'est Dieu qui vise votre foi. Pour produire quelque chose. Et puis, il y a quelque chose que vous devez faire, et ça peut être résumé en gros par ne pas interrompre l'accomplissement parfait de son œuvre prévue dans l'épreuve. Et ça, c'est le grand challenge. Épreuve après épreuve après épreuve nous arrive. Dieu n'a pas simplement permis, mais le grand sauveteur qui regarde, et au cas où vous êtes en trop de difficultés, il va plonger dedans pour venir à votre secours. Ce n'est pas ça. Dieu a prévu, et l'auteur, théoriquement, on peut peut-être terminer par dire cela, n'est-ce pas? Mais sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, qu'est-ce qu'il y a pour que vous fassiez? C'est un verbe subjonctif, c'est un verbe qui n'est pas passivement, mais vous mettez dans une position où activement maintenant, vous acceptez cette épreuve et vous déterminez qu'une fois que les choses sont mises en route, vous n'allez pas interrompre la procédure, le processus. Parce que il y a un accomplissement parfaitement prévu, il y a une œuvre de perfectionnement que Dieu a prévu à travers cette épreuve. Il y a beaucoup de manières d'interrompre. Et nous faisons ça très souvent. On peut avoir notre bras dans un plâtre parce qu'il est cassé, assez grave. Et après, le docteur a dit, mais vous gardez ça pendant 6 semaines. Et puis après 3 semaines, vous en avez eu assez avec ça, et puis en plus, votre bras semble être bien, et puis vous l'enlevez, et puis c'était le cas avec une de nos enfants il y a des années. On a enlevé le plâtre nous-mêmes à la maison, et puis on a découvert que le docteur a dû recommencer à zéro, pas à zéro, moins zéro. Parce qu'il fallait recasser le bras, douloureux, beaucoup plus que douloureux, beaucoup plus que la première fois. Il fallait qu'il le remette dans une bonne position, qu'il doutait. Il le remet comme ça. Il dit, je ne sais pas maintenant si ça va marcher. Ça aurait pu facilement marcher avant. Cette fois, heureusement, par la grâce de Dieu, ça marchait. Et là, il n'y a aucune trace de cela. C'est notre fille Donna, quand elle n'avait que 2 ans. C'était le cas. Nous faisons des choses comme cela dans la vie parce que notre but, notre intention, notre compréhension n'est pas assez claire pour pouvoir nous faire voir jusqu'au bout, jusqu'au dernier point de la processus. Notre tendance est toujours de faire un court-circuit. Je ne veux pas dire qu'il faut éviter, toute possibilité de prendre des médicaments pour la douleur, etc. Bien sûr, il faut trouver le moyen le plus efficace et vite pour se guérir quand on est malade. Mais de reconnaître la main de Dieu, et de refuser ce qu'il est en train de faire, et d'avoir une attitude, rien n'est plus important que le règlement de ce problème. Non, il n'est jamais le but que Dieu est en train d'atteindre, votre guérison. ce que Dieu est en train de faire, c'est de lancer un projet à travers une certaine épreuve qui va durer tant de temps pour que, à la fin, l'eau soit guérie, la fleur soit fleurie, la nourriture soit bien cuite. Les mille autres choses que nous pourrions faire court-circuit, qu'il ne faut pas faire, pour que ça produise et accomplisse une œuvre parfaite par rapport à votre foi. Il faut que la patience s'accomplisse et que Dieu arrive et atteint son but. Nos épreuves, donc, sont à l'origine divines. Une chose a bien commencé. Dieu est à l'origine de nos épreuves. Pouvez-vous commencer au moins de faire face à votre épreuve, quoi que ce soit, par dire, Dieu vient, pas de dire, Dieu, Satan m'a attaqué, ou cette personne est méchante, ou j'ai reçu une injustice, viens mon secours. Ce n'est pas mauvais de prier comme ça, si on comprend vraiment le sens, mais nous devons dire comme était vu, comme à la conclusion qui c'était le missionnaire en Chine dans le 19e siècle, Hudson Taylor, qui disait, après des années de lutter dans son âme, je suis arrivé à la vérité qu'il n'y a qu'une seule source, Dieu, de tout ce qui m'arrive. Dieu est la source. Dieu est la source de mon épreuve. Et si je peux arriver au début pour dire, Dieu, je sais que tu as voulu que cette chose m'arrive. Ça, c'est à douter pour certaines. Mais je crois qu'avec une meilleure compréhension de la parole de Dieu, vous pouvez vous dire aussi, oui, Dieu est l'origine de cette épreuve dans laquelle je me trouve. Nos épreuves sont d'une épreuve d'origine. On aurait pu aller n'importe où dans la parole de Dieu, mais Job est l'exemple suprême probablement pour ceux qui souffrent. Et il disait, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Job était d'une autre mentalité de sa femme. Une chose que nous verrons plus tard, c'est qu'une chose que Dieu est constamment en train de faire, c'est d'authentifier notre foi. Est-ce que j'ai la vraie foi? Tout le monde a la foi. Tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde croit en quelqu'un. Tout le monde a une religion ou une philosophie qu'il suit. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la foi salutaire, la foi salvatrice? Donc, Job savait. Il pleurait, il s'angoissait. Il était très, très, très confus parfois, mais jamais une seule fois est-ce qu'il a enlevé sa confiance pour dire, apparemment Dieu n'est pas capable, apparemment Dieu n'est pas dans cette chose, apparemment ça c'est quelque chose hors de Dieu, si Dieu existe. Sa femme disait, maudit Dieu et meurt. C'est pas la peine de continuer comme ça. Si Dieu existe, il n'aurait pas fait ça. Si Dieu existe, mais il est bon, il n'aurait pas permis cela. Il n'est pas bon, donc s'il existe, maudis-le donc, pour qu'il comprenne que tu es vraiment en colère. Et puis meurs, parce que tu vas mourir quand même, c'est trop fort. C'est trop fort. Si vous avez cette mentalité, ou vous pouvez avoir la mentalité, non, 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 je ne dirai pas ça, à moins que. j'ai mes limites quand même. Ah oui, j'ai entendu ça. J'ai quand même mes limites. Et pourtant, le chrétien peut dire, il n'y a aucune tentation qui ne vous est arrivée, qui n'est humaine, mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez testé, tenté, éprouvé au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen de sortir afin que vous puissiez échapper, non, supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Donc, Job le savait. Bien loin dans le temps de Job, bien avant même les patriarches, Job disait, je suis éprouvé, je ne connais personne qui a été autant éprouvé que moi ici, mais je sais qui c'est qui m'éprouve. Et je sais qu'il aura un fin. Et je sais que je vais sortir comme de l'or. Oh, combien de passages dans les psaumes pourrions-nous lire? Le psalmiste qui nous a dit, car Dieu, c'est toi qui nous as éprouvés. Oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Aucun argent n'est argent de valeur avant qu'il passe à travers le creuset. Dieu fait passer en différentes températures de chaleur ses enfants. Il est en train de manier la situation, de garder la situation. Il sait qui peut supporter quoi. Il sait bien aussi que nous allons crier, « Ça y est, c'est fini, je peux plus !» Dieu sait si nous ne pouvons plus ou pas. Et il sait ce que nous pouvons endurer. Et il sait ce que nous avons besoin pour passer la prochaine étape. Comme la semaine dernière, nous avons vu considérer cet étudiant, cette illustration des étudiants qui doivent passer une certaine épreuve avant qu'ils puissent être candidats de passer encore des plus sévères épreuves. Et ceux qui ne réussissent pas de pouvoir continuer à être éprouvés pleurent parce qu'ils ne peuvent plus être éprouvés. Et ceux qui réussissent pour recevoir encore plus sévères épreuves font la fête parce qu'ils peuvent avancer. Quelle foi est réelle qui n'a jamais été mise à l'épreuve? Et Dieu met constamment notre foi à l'épreuve, tellement elle est précieuse, comme nous verrons en quelques minutes. L'apôtre Paul a été mis à l'épreuve. L'apôtre Paul disait, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan. » Voilà. Enfin, Hudson Taylor a compris. Si Satan m'attaque, c'est Dieu qui l'a mis à mon attaque. Pour mon bien. Pourquoi? Pour que je ne sois, dans ce cas, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Paul parle de ces quelques moments où Dieu apparemment lui avait permis d'entrer dans une autre sphère de communion et communication avec lui au ciel et au lieu de pouvoir se vanter. On voit ça souvent. Dans beaucoup d'églises, il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui l'ont regardent avec une certaine condescendance spirituelle, humblement, à ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas regardent vers eux avec un grand désir de l'avoir. Et puis, Paul aurait pu être pris dans ce piège. Dieu doit être spécial. Dieu m'a permis certaines expériences qu'il n'a pas permis aux autres. Dieu s'est révélé à moi certaines choses qu'il n'a pas révélées aux autres. Paul a reconnu, jamais sans relâche, la main de Dieu dans chaque épreuve. Et je crois qu'il y a très peu de gens qui ont été éprouvés comme Job dans l'Ancien Testament et comme l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Très peu de gens ont été éprouvés autant que l'apôtre Paul. Un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que vous n'avez aucun problème avec de l'orgueil? Merci de ne pas avoir levé la main. L'orgueil, un problème qui nous chasse, qui se lève la tête dans mille différentes formes, qui le moment où nous avons « Enfin Dieu, tu m'as rendu humble », le personne qui se voit humble s'il était avant, il ne l'est plus. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas des traces et même souvent des expressions assez dégoûtantes d'orgueil qui se manifestent pour prouver. Il a quand même un long chemin à faire. Enfin, il ne serait pas entièrement débarrassé de son orgueil avant d'arriver. Mais Paul remercie Dieu. Voyez-vous le ton de remerciement dans son épreuve? C'était une épreuve très dure. C'était une épreuve pourquoi il priait trois fois, la Bible dit. Pas pour dire qu'il a mentionné trois fois au hasard, mais il a certainement préparé du temps et du moyen de se mettre à part, de implorer, de supplier, de jeûner, de prier, de passer des nuits et des jours pour que Dieu enlève cette épreuve parce que c'était trop pour lui, quant à lui. Parce que ça empêche le ministère. Parce qu'il aurait été beaucoup plus efficace dans sa tête, dans sa propre tête, si jamais il n'avait pas cette épreuve. C'était vraiment quelque chose de dur. C'était quelque chose qui était un écharde dans sa chair. C'était un ange du Satan. Ce n'était pas quelque chose de petit. Mais Dieu l'a utilisé quand j'ai compris. Waouh! Quelle avance qu'on peut faire dans notre vie chrétienne si nous pouvons, comme disait Jacques, regarder comme un sujet de joie. Ah, il y a quelque chose, ça va faire mal. J'imagine un enfant de 3 ans, 4 ans, qui va au docteur pour avoir une piqûre, ou est à l'hôpital. Et puis, avant qu'il est arrivé, sa maman, son papa disait, écoute, tu dois avoir une piqûre, mais écoute, c'est pas grave, ça va piquer un tout petit peu, mais pas beaucoup, et puis, ça va te faire perdre la grande fièvre, ça va te faire guérir, c'est quelque chose de bien, tu comprends? Oui papa, oui maman, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont en train, ils sont à McDonald's en train de manger une glace avant de partir là-bas. L'enfant saisit un tout petit peu, comprend un tout petit peu, mais écoute, là, dans un lieu il n'a jamais vu avant, devant une dame avec la bouche couverte, avec en robe de blanche, avec une aiguille comme ça, qui avance vers son bras, son perspective commence à changer un peu. Beaucoup. Et nous sommes souvent ce petit enfant, n'est-ce pas? Et Dieu dit, il ne faut pas que vous continuiez à agir comme un petit enfant face à ça. Il faut que vous compreniez. Vous le prenez comme un sujet de joie parce que c'est un sujet de joie. Ce que Dieu a prévu à travers cette piqûre va dépasser vos plus grandes aspirations pour votre propre vie spirituelle. Il faut que vous le regardiez. Il ne faut pas simplement que vous le toleriez. Il ne faut pas que vous acceptiez comme inévitable. Mais que vous le voyez comme un sujet de joie. Donc, l'apôtre Paul avait changé sa mentalité quand il avait écrit le livre de Romains. L'apôtre Paul était vers la fin de son ministère. Et l'apôtre Paul comprenait tout ce qui vient de Dieu. est pour un but, bien plus nous nous glorifions même dans des afflictions. Pas nous acceptons, nous tolérons, mais nous nous glorifions. C'est en fin de compte le même mot qui est utilisé dans le premier verset où il parle de la justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur, à qui nous devons eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est le même mot qu'il utilise maintenant en verset 3. Bien plus nous glorifions même des afflictions. Il y a deux choses en quoi nous glorifions en égalité. Nous glorifions dans l'espérance. Ah, cette mot espérance est aussi dans notre texte dans Jacques. Plus que je voyais Jacques, plus que je vois que Paul et Jacques se comprenaient l'un l'autre très très bien. Il y a beaucoup de choses que Jacques répète presque de la même manière que Paul avait répété. Et voici un des cas. Regardez comme un sujet de joie les choses qui vous arrivent, les épreuves qui vous arrivent, parce que ils vont produire du patience. Paul va continuer par dire de patience aussi, qui va produire victoire, qui va produire l'espérance. Une espérance qui a maintenant fixe dans sa connaissance et sa croyance. Quelque chose dans l'avenir, futur. Fixe. Pierre va dire la même chose, on verra. Bien plus nous glorifions dans des afflictions, parce que nous savons quelque chose. Combien savez-vous? La totalité de la Bible nous enseigne page après page après page la main de Dieu dans les épreuves de ses enfants. Jugement de ceux qui ne sont pas à lui. Correction, sanctification, raffinissement, perfectionnement, soigneusement, pour faire venir ce qu'il a prévu pour lui. Et donc Pierre va dire, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise. Il va plus loin que simplement parler de notre petit embêtement de tous les jours, qui sont aussi des épreuves autant de notre foi que des grandes choses. Mais les fournaises qui est au milieu de vous, que vous éprouvez, vous devez comprendre non simplement que Dieu permet, mais que Dieu est l'auteur, est à l'origine de chacune de vos épreuves, sans exception. Et comme j'ai déjà dit, Dieu, les épreuves visent toujours notre foi. Nous avons vu beaucoup de fois, et tout récemment, Lala a traité ce passage dans 1 Pierre chapitre 3. Et vous pouvez tourner à chapitre 3 parce que j'avais fait sortir juste certaines parties pour pouvoir mettre sur une seule cliché des choses que je voulais souligner par rapport à notre foi. Après sa petite introduction, l'apôtre Pierre dit, béni soit Dieu qui nous a régénérés pour une espérance. Jacques en avait parlé, Paul en avait parlé, maintenant c'est Pierre qui en parle. Une espérance, pour ceux qui n'ont pas compris ce que dans la Bible, n'est pas une chose douteuse. On espère qu'il ne pleut pas demain, parce qu'on veut aller en vacances. Ce n'est pas ça. Une espérance dans la Bible, c'est une chose qui sort directement de notre foi, qui est fixe, mais qui est future. C'est une mentalité, mais c'est aussi un objet. J'espère en Dieu, dit le psalmiste maintes fois. J'espère en lui. Et le sujet de mon espérance dans ce cas, ici, c'était un héritage qui est fixe dans le ciel. Ça, c'est aussi mon espérance. Mon espérance, c'est un objet, un nom, là-bas. C'est une attitude dans mon cœur que j'ai. Et il dit, Dieu nous a régénérés. Pourquoi Dieu nous a fait renaître? Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que Dieu a en vue une espérance qui ne peut pas être, on ne peut pas l'accéder sans être régénéré, sans être né de nouveau. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Qu'est-ce qu'il a effectué par sa résurrection d'entre les morts? Pour, verset 4, un héritage. Pour un héritage réservé dans les cieux. Qui? Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. La valeur de notre foi est sans estimation pour nous, parce qu'il est absolument critique et essentiel dans notre salut. La foi qui est testée ici, c'est la foi de notre salut. Enfin, il n'y a que ça dans ces plusieurs aspects. Dieu nous a sauvés pour que nous croyions en lui. Pas contre toute évidence apparente, physique. Ce que nous croyons n'est pas quelque chose qu'on peut toucher ou goûter ou entendre ou voir visiblement. Ou c'est quelque chose qui est invisible. Et l'apôtre Pierre va continuer. Donc, votre foi est quelque chose de très 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 précieux. Parce que c'est ça qui garde votre salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est-à-dire à la fin du temps, quand il n'y aura plus de temps, le paquet du salut sera complet. Vous dites, mais je crois qu'on est déjà sauvé. Si, on a déjà reçu les prémices de notre salut, mais notre salut est toujours en train de formation. Notre salut est toujours là comme notre héritage. Et nous avons les prémices. Il y a certaines choses qui indiquent que les prémices sont valables. Il y a certaines choses qui indiquent que ce n'est pas une foi dans une fantaisie, même chrétienne, même biblique, même doctrinalement saine, mais quand même qui n'est pas une réalité de notre vie. La foi teste la réalité de notre les épreuves testent la réalité de notre foi. Ils testent l'authenticité. Oh, il fait beaucoup plus que cela. Mais constamment, constamment, nous sommes en train d'avoir notre foi testée. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'authentique? Et quand nous répondions comme Dieu le veut, la preuve qui nous fait grandir, qui nous promulgue encore plus loin dans notre assurance de notre confiance, qui ne peut pas rester tout petit. La foi est la main qui reçoit le don de grâce. Est-ce que votre main a été étendue? Ce n'est pas quelque chose en qui on peut tirer de la gloire. Mais, verset 6, vous serez attristés par des épreuves. La semaine dernière, ou la dernière fois, il y a 3 semaines, nous avons noté pas mal de versets. L'homme existe pour le trouble, disait Job, comme les étincelles qui montent vers le ciel. L'homme existe pour le trouble sur cette planète? Oui, sur cette planète. Un sujet de joie? Ah, le chrétien va voir ça comme un sujet de joie. Et plus qu'il connaît la parole de Dieu, et plus qu'il connaît Dieu, plus qu'il sait, je ne pourrai pas accéder ce que je recherche sans que je sois, que ma foi soit éprouvée. Ma foi n'est pas plus forte que la résistance contre laquelle je suis appelé de montrer une contre-résistance. Je répète ça, j'espère, plus simplement. Quand vous allez au gym pour faire des exercices, l'efficacité d'un exercice dépend sur la pression que ça met contre votre force. Plus que vous mettez de force, plus que ça met du temps, plus que vous allez faire grandir vos muscles pour devenir celui qui lève les poids aux Olympiques, c'est parce que depuis qu'ils étaient plus jeunes, ils ont commencé par 1 kilo, puis 2 kilos, puis 10 kilos, puis 15 kilos, puis 20 kilos, puis petit à petit. Je me rappelle quand j'étais petit, un fermier m'a dit, si tu prends un tout petit bébé vache, et tous les jours, vous prenez-le et vous levez de l'autre côté, tous les jours, vous ne s'arrêtez pas, même quand il est grand, vous pouvez continuer à le faire. Grand, une vache, il doit avoir quand même des limites. Mais de toute façon, plus que quelqu'un qui ne l'avait pas fait, qui a confiance en quoi que ce soit, qui n'a pas été mis à l'épreuve, surtout quand ça soit quelque chose qui va coûter notre vie s'il ne marche pas comme il faut. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et tous les écrivains de la parole de Dieu ont compris ce principe. Je dois regarder comme un sujet de joie les troubles qui m'arrivent. Jésus avait beaucoup de troubles quand il était ici. Il remerciait Dieu pour ses disciples qui étaient avec lui pendant ses troubles, c'est le mot qu'il emploie. Jésus était troublé. Jésus était attristé. Jésus pleurait. Et vous devez le faire aussi. Mais Jésus regardait comme un sujet de joie chaque chose qui arrive, même cette horrible lutte dans le jardin de Gethsémané. Il avait ses yeux fixes et regardait comme un sujet de joie. Vous dites, mais je ne peux pas être joyeux. Le but c'est que vous soyez joyeux. Mais même vous ne pouvez pas réjouir en rigolade. Vous pouvez regarder comme un sujet de joie qui va produire dans son temps les émotions de joie, parce que la joie est une émotion, comme nous avons appris la dernière semaine. Et vous ne pouvez pas sentir, on ne peut pas vous commander de sentir la joie, et puis 5 secondes plus tard, maintenant sentir la tristesse, maintenant sentez la colère. Non, je peux dire, prends ça, mets ça, fais ceci, fais cela, allez là, revenez, on peut faire ça. Mais être joyeux, et pourtant c'est un autre, et pourtant c'est, nous avons vu la semaine dernière avec Timothée, nous avons vu que l'apôtre Paul donne comme un impératif de se réjouir. On ne peut pas provoquer sur le coup, mais en regardant comme un sujet de joie, on termine par être joyeux. Comme quelqu'un demandait à C.S. Lewis, si je n'aime plus ma femme, quoi faire? Parce que c'est clair, on ne s'aime plus. À quoi ça sert de continuer à vivre dans l'hypocrisie? Faut, on se sépare. Et C.S. Lewis dit, si tu ne l'aimes pas, fais comme si tu l'aimes. Fais comme si tu l'aimes. Pas faire semblance, mais traiter votre femme comme si vous l'aimiez. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas hypocrite du tout. Si vous n'êtes pas joyeux, regardez comme un sujet de joie quand même. Si je l'ose préviser que si tu n'es pas hypocrite, et si tu vas jusqu'au fond de traiter votre femme comme si vous l'aimez comme la chose la plus grande valeur dans votre vie, au bout de quelques semaines, même pas, vous allez être ravi d'elle. Ce n'est pas une question de faire semblant, c'est une question d'être obéissant. Et c'est une question de faire ce qui est correct Et Dieu va nous mener jour après jour après jour là où nous reconnaissions comme une épreuve de notre foi, qui donc est une test, un contrôle qui va nous propulser plus loin dans notre liberté de la foi, afin que, tel est son but, afin que l'espérance de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les épreuves se séparent entre, comment disait Jésus, les brebis et les boucs. Oui. Et puis, parce que on interprète différent. C'est pour cela qu'il y a quelque chose à savoir. Il faut qu'on sache que les épreuves sont quelque chose en quoi on peut se glorifier, parce que Dieu est en train de mener un projet de pureté, de sanctification de notre vie vers son accomplissement. Donc, Paul dit ce que ça mène à la persévérance, qui mène à la victoire, qui mène à l'espérance. Et Jacques dit dans notre texte, en premier chapitre, sachant que l'œuvre de votre foi produit quelque chose, c'est la patience. Ça, c'est pour une autre fois, parce que la Bible est remplie de la nécessité de persévérance, de patience, pour constamment validifier, authentifier notre foi. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre pour que nous soyons enfin parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Il va nous changer dans beaucoup de différentes moyennes. Se céder au Seigneur quant aux épreuves produit une attitude joyeuse, verset 2. Il va produire une intelligence illuminée, sachant que, pour que nous vivions plus dans l'ignorance quant aux épreuves. Il va produire une volonté soumise, verset 4. On a déjà parlé du fait que ce verset implique la participation dans cet accomplissement. Il va produire en verset 6 un cœur qui croit, un cœur qui ne doute pas, un cœur qui est fixe et qui, à chaque fois qu'une épreuve arrive, il sait. Il ne sait pas comment ça va finir, mais il sait qui c'est qui mène cette épreuve. Il sait quel est son but. En gros, il sait qu'il y a encore plein d'autres choses qu'il va faire aussi, qu'il ne le sait pas. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne sait pas, en plus. Et puis ça produit un esprit humble qui est montré. Aimeriez-vous avoir ça? Si Christ est le sujet, l'objet plutôt, de votre foi, si votre foi est réelle, toutes ces choses ici et d'autres sont en grande envie au fond du cœur. Si vous dites, moi, soumise, jamais. Humble, pour accepter tout ce que quelqu'un d'autre impose sur moi. Alors, nous avons peut-être besoin, de temps en temps, de faire ce que disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Examinez votre foi pour voir s'il est vraiment authentique ou pas. Examinez vous-même pour voir si vous marchez dans la foi. Parce que le Seigneur examine tous. Et certains vont agir comme des non-chrétiens. Et certaines vont, malgré quand même leurs défaits et une foi qui est incomplète, va quand même comprendre Dieu. Ils vont pas abandonner leur foi. Parce que une des qualités qu'ils reçoivent à la nouvelle naissance, c'est la capacité de persévérer jusqu'à la fin. Et ça, c'est le sujet à travers tout le livre de Jacques. Jacques n'est pas là pour définir la réalité, pour donner une définition de la foi. Il est là pour nous faire comment ça se voit qu'une vraie foi se manifeste. Et la vraie foi se manifeste avec une patience surnaturelle que le monde ne peut pas saisir, comprendre. Dieu, quand il chauffe un peu l'eau, va distinguer entre les deux. Parce qu'il a créé une semence et placé dans le cœur de chacun de ses enfants qui est tiré vers lui, malgré cet autre côté de nous qui est charnel. Il y a quand même une nouvelle nature. Qu'il veut vivre pour Dieu, qu'il veut se repentir quand il tombe dans le péché, qu'il n'accepte pas son état de péché, et qui, au fur et à mesure, pour qu'il connaisse la parole de Dieu, peut reconnaître, ah, ça c'est Dieu. Dieu, je n'ai pas la force, je sais ce qui m'arrive, ou je ne sais pas, mais je sais déjà que je n'ai pas la force. Les épreuves mènent le chrétien vers une inspection de soi qui dit, oh Seigneur, je ne suis pas capable, mais donne-moi la force. Ça mène le non-créateur vers une justice de soi. Je ne mérite pas ça. Je peux faire tout seul, comme il s'appelle Pliable dans le voyage du pèlerin, qui voulait aller avec un chrétien jusqu'à la ville céleste. Et puis il était très content parce qu'il avait entendu l'évangile, il a accepté avec joie. Waouh, c'est bien d'être au ciel. Et puis quand il tombe dans le bourg de désespoir, il dit, si jamais je sorte de cela, je ne vais jamais avec toi. Ça y est, c'est fini. Oh oui, Jésus parlait de cela dans une parabole, n'est-ce pas? Il disait, il y en a qui tombent par terre et les oiseaux viennent et le faire manger. Il y en a qui tombent, qui sortent un tout petit peu parce que tout va bien, mais le moment que tout ne va plus bien, ils s'en vont parce qu'ils ne sont pas réels. Dieu a ses manières de séparer les deux. Et peut-être ça peut vous donner des questions. Mais Robert, écoute, tu sèmes des doutes dans mon esprit. Ce n'est pas grave. Prenez ces versets, allez vers le Seigneur, dis Seigneur, je veux te suivre. J'ai été déjà éprouvé, mais je t'accepte parce que c'est toi qui es en train d'agir dans ma vie. Je ne comprends pas tout, mais j'accepte Seigneur. Et c'est cet esprit qui nous aide à vraiment saisir, avancer et même chercher les Écritures. Pour voir ce que Dieu est en train de faire. Prions Dieu.